Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà ce qui est écrit ici. Des gens lui amenaient des petits enfants pour qu'il les touche ou qu'il les bénisse. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. » Puis il les embrassa et les bénit et en leur posant les mains. Amen. La Bible déclare que le Seigneur veut que les enfants viennent à lui. Alors, comment régler l'éducation des enfants? Je crois qu'il faut se baser sur ce que dit la parole de Dieu. Il faut les éduquer conformément aux Écritures. J'ai constaté que des enfants de cet homme de Dieu, bon, les prêtres n'ont pas d'enfants en principe, donc c'est les pasteurs et les autres qui ont des enfants. Et j'ai constaté que des enfants des pasteurs ou des chrétiens anciens ou des diacres dans l'église étaient souvent des petits bandits, entre parenthèses. C'est-à-dire, ils viennent à l'église, c'est vrai. Ils savent prier. Si c'est pour leur demander de prier, ils savent le faire. Ils ont prié. Ils ont appris à prier quand ils avaient 6 ans. Donc, ils savent prier. Mais eux-mêmes, ils ne craignent pas Dieu. Et souvent, les enfants constituent des tourments dans le cœur des parents. Rappelez-vous, Élie. Pas le prophète Élie, hein, mais le sacrificateur Élie. Dans 1 Samuel chapitre 1. Élie avait des enfants. Le sacrificateur Élie. Mais les enfants d'Élie étaient mal éduqués. Il leur avait appris à craindre Dieu, à respecter la parole de Dieu et à honorer Dieu. C'est un père qui était un père trop gentil, trop gâteau. Et la Bible déclare que lorsque les personnes venaient pour offrir de l'offrande, en fait, faire des sacrifices, ils prenaient la meilleure partie de la viande et ils mangeaient ça. Puis, ils couchaient avec les femmes qui venaient pour adorer Dieu. Les fils du sacrificateur Élie le faisaient. Et ça a été une indignation. Dieu a été indigné de voir que les enfants du sacrificateur n'avaient aucune règle morale. Et pourtant, ces enfants avaient une certaine connaissance de Dieu. Pour nous qui venons à l'église, on nous jugera la manière dont nos enfants sont éduqués. Est-ce qu'on peut dire amen? Si nous sommes des grands chrétiens, on nous connaît partout dans nos services, et que nos enfants ne sont pas éduqués dans la voie de Dieu, notre foi sera une foi, je dirais, quasiment inutile. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur déclare que celui qui n'a pas soin des siens, de sa famille, il est quoi? Il est pire qu'un infidèle. Alors, pourquoi les enfants des chrétiens, des pasteurs, des anciens, chrétiens de toute communauté, par exemple, hein, pourquoi ne marchent-ils pas droit? Ça s'explique simplement parce que, généralement, nous, les chrétiens, les chrétiens, que ce soit évangélique ou pas, même catholique aussi, ou méthodiste, protestant. Donc, là, je suis vraiment, je touche à tous les aspects maintenant. Il y a des erreurs que nous commettons. L'erreur que nous commettons, c'est que on a trop d'activités à l'église. Ici, c'est pas le cas. Mais il y a trop d'activités à l'église. Le père ou la mère sont trop impliqués. Oui, il y a tel programme, il y a tel programme, il y a tel programme. D'abord, là, toute la semaine, on est au boulot. Et les soirs, sur les 5 soirs qui nous restent, c'est-à-dire les 5 soirs, il y a les programmes. Et même les samedis, où on doit être à la maison, on est souvent dehors. Et les enfants n'ont pas l'occasion de voir père et mère. Au moment où je vous parle, moi-même, je suis très gêné. Parce que je ne suis pas forcément le grand modèle en la matière. Mais on doit apprendre à être avec nos enfants. Apprendre à prier avec eux. Pas les contraindre, mais notre présence, vous voyez, les rassure. Le fait qu'ils nous posent des questions, qu'on leur réponde. Et j'ai constaté que si les enfants de certains chrétiens n'étaient plus vraiment des vrais chrétiens qui étaient des voyous, c'est parce que généralement le père n'était pas là. Alors que disent les enfants? Ils disent que si c'est l'église qui a pris mon père ou ma mère, je n'irai pas à l'église. Vous voyez, l'argument est très simple. J'ai fait un camp avec l'enfant d'un grand pasteur, bon, malheureusement, il ne vit plus, qui était président d'une grande communauté ici en Côte d'Ivoire, une des plus grandes communautés chrétiennes en Côte d'Ivoire. Cet enfant était un vrai voyou. Je dis bien un vrai voyou. En plein camp biblique. En plein camp biblique. On va à un camp, c'est pour prier, enseigner la parole de Dieu. Les camps sont très intéressants. Il sortait, quand on dort, parce qu'on dormait à pas de 22 heures, lui sortait par la fenêtre, enfant d'un pasteur, président d'une communauté encore du va ici. Il sortait la nuit, il partait boire, fumer. Et souvent, il partait avec les filles. Il partait avec une fille du camp pour coucher avec elle, puis elle revenait. Alors quand tu lui dis prier, mais il sait prier. Quand tu commences une leçon sur la Bible, lui-même il finit la leçon, il a fini. Il connaît. C'est pas un pas. Enfin, je dis, il connaît la Bible. Et l'enfant me prenait même la drogue. Et la police était souvent à ses trousses. Bon, il n'est plus encore, il est parti à l'extérieur. Vous voyez comment est-ce que l'enfant d'un grand homme de Dieu n'a pas pu être récupéré. En tout cas, difficilement. Mais sachez une chose. Dieu est un Dieu d'alliance. Et que malgré tout, Dieu se souvient toujours des enfants de ses serviteurs. Il faut dire amen avec moi. Toujours il revient à lui. Mais il revient à lui avec après beaucoup de tribulations. Avec beaucoup de larmes. C'est sûr et certain. Si vous êtes dans la foi, vos enfants ne se perdront pas. En ce sens que Dieu, dans sa grâce, va toujours les ramener à lui. Il va créer les conditions. Mais en tant que père ou mère, qu'est-ce qu'on va souffrir quand vous savez que votre propre enfant vole, il fume, peut-être qu'il prend un peu de drogue, qui se saoule la gueule, qui se bagarre dans la rue. Est-ce que ça vous honore? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un peut être honoré par ça? Est-ce qu'on est honoré? Non. Quel que soit le titre qu'on a, on ne peut pas être honoré. C'est pourquoi l'éducation de l'enfant est quelque chose de primordial. Chers frères, chers sœurs, ne laissons pas nos enfants à la maison. Dites amen avec moi. Enseignons-nous la parole de Dieu. Mais attention, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de les obliger. Il ne faut jamais les obliger. Même si l'enfant a 6 ans, 7 ans, laissez ou ce que vous pouvez faire, c'est de lui parler du Seigneur. Prier avec lui avant de dormir, ou le matin par exemple, lui donner des livres, des dessins bibliques, tout ça. Mais il ne faut pas l'obliger. Quand l'enfant est fatigué et qu'il n'a pas envie d'aller à l'église, laissez-le. Parce que si vous l'obligez, il ira à l'église à cause de qui? Parce que vous l'obligez. Demain, quand il va avoir sa liberté, il va dire, ah, enfin, je suis libre. Mon père m'embêtait. Ma mère m'embêtait, je suis libre. Alors, avec les enfants, il faut aller sous forme de suggestion. Il faut leur montrer que la voix de Dieu est intéressante. C'est pourquoi, par exemple, quand il y a les grandes manifestations aussi, ne soyez pas des chrétiens trop spirituels qui refusent de faire l'anniversaire de leurs parents, de leurs enfants. Parce que si, à cause de la foi, vous refusez de faire l'anniversaire d'un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que son père est trop spirituel, son père l'aime pas. Parce que les camarades, eux, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu les cadeaux d'anniversaire. Lui va se dire que c'est à cause de Dieu que tu refuses de lui faire des cadeaux d'anniversaire. Il va prendre ton Dieu en haine. Est-ce que ce que je dis est clair? Ok. Il y en a qui disent par exemple que, bon, c'est un débat qu'ils font et ce qu'ils disent n'est pas faux. Que Jésus n'est pas né le 25 décembre et que pour cela, il n'est pas nécessaire de faire des cadeaux aux enfants. Moi, je pense que c'est un faux débat. C'est un débat qui n'a pas raison d'être. On aurait choisi le 1er janvier. On aurait choisi le 8 juin. Le 8 mai. Peu importe. Pourvu que Jésus-Christ soit célébré, qu'il soit élevé. Il faut dire amen avec moi. Donc, il ne doit pas avoir des débats pour ça. Donc, il dit oui, ce n'est pas Noël. Bon, ok, je peux comprendre s'ils ne le font pas. Mais ne privez pas vos enfants de cadeaux à Noël. Et dans les fêtes importantes. Pourquoi? Mais parce que si vous les privez de cadeaux, ça va passer mal dans le cœur. Ils vont dire que ça compte ton Dieu de l'église où tu vas là. Ça compte de ça que tu n'as pas donné un cadeau. Tu n'as pas donné un cadeau. Ils ne sont pas contents. Donc, vous voyez que pour l'éducation des enfants, il faut tenir compte de l'environnement. Il ne faut pas trop les gâter. Pas se tomber dans l'extrême où on offre des portables aux enfants qui coûtent 150 000, 200 000. Des portables que les grandes personnes n'ont même pas. Aux enfants, il ne faut pas livrer ces gens des cadeaux. Il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Et leur expliquer simplement que ça, j'ai souffert pour avoir ça. Si tu veux arriver à mon niveau, allez, il faut travailler dur. L'une des erreurs que nous commettons, pour ceux qui ont une bonne situation, qui sont des cadres ou des hauts cadres, comme c'est la plupart parmi vous ici. On a tendance à offrir aux enfants ce que nous-mêmes on n'a pas reçu quand on était jeunes. C'est vrai. Ça, c'est une erreur aussi que nous commettons. Nous, les parents, nous commettons des graves erreurs. Comme nous sommes nés dans les conditions pauvres. Moi, j'ai grandi dans les conditions pauvres. Mon père était tailleur, ensuite il est parti au village où il a fait la plantation. Donc, entre moi, enfant de mon père, et ma fille, il y a une grande différence. Je suis pasteur, je suis professeur d'université. Il est clair que ma fille a plus de grâce que moi, que je n'ai eu. Où est la différence? Donc, l'erreur que je peux commettre, je peux dire, bon, je suis pasteur, on me connaît, je suis professeur d'université. Je vais chercher à offrir à ma fille ce que je n'ai jamais reçu. D'abord, moi, je ne sais même pas ce qu'on appelle anniversaire. En tout cas, moi, on n'a jamais fait mon anniversaire. Lorsque le 25 décembre ou le 1er janvier, on t'a offert un petit bouteille de Fanta, mon frère m'a fait des gâtés, je suis content. Le maximum que je puisse avoir, c'est une bouteille de Fanta et tu bois, tu es content. Donc, à quelqu'un moi comme ça, qui n'a jamais fêté, qui n'a jamais fait anniversaire, c'est quand je suis devenu grand, c'est là que je commence à faire mon anniversaire à l'université. Quand j'étais étudiant, c'est moi-même qui commence à faire mon anniversaire. Déjà, nos enfants, à un an, on leur fait anniversaire. Donc, ils sont dans des conditions différentes. Alors, l'une des erreurs que les parents commettent, c'est qu'ils cherchent à reproduire sur les enfants ce qu'ils n'ont pas reçu. Disons, moi, quand j'étais enfant, on n'a pas fait anniversaire pour moi. On a fait anniversaire de 300 000. Quand j'étais enfant, ma mère, on fait telle chose. Alors, mon enfant tient ceci. On va au supermarché. On dépense beaucoup d'argent. Ils vont se rendre compte que la vie est comment? La vie est quoi? La vie est facile. Parce que toi, tu as un peu. Mais ton père, lui, n'avait rien. C'est pas comme cette histoire que quelqu'un nous a raconté une fois. Il disait que, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, je vais la raconter parce que ça peut aider. Rockefeller, c'est parti des hommes les plus riches au monde à l'époque. Et lui, un jour, il a pris un taxi. Non, son fils, plutôt. Le fils de Rockefeller avait pris un taxi. Parce que sachez qu'en Europe, on est un peu développé. Hein, aux États-Unis, les taxis, ce sont les riches qui prennent les taxis. Hein, les taxis, généralement, hein, c'est les riches. Ceux qui n'ont pas envie de rouler, sont fatigués, prennent un taxi, bon. Donc, le fils Rockefeller a pris un taxi. Et puis, il est descendu quelque part. Et il a tendu donc le 7 dollars au monsieur, au taximètre. Et le taximètre a voulu lui redonner la monnaie. Il dit non, il faut prendre ça, c'est pour toi. Un pourboire, c'est important. Là, c'est un gros billet. Il lui a donné. Un peu comme dans les restaurants, on donne les pourboires aux servantes, aux serveuses et aux serveurs. Et le lendemain ou deux jours après, le fils, le père lui est venu. Et il semble que comme il s'est connu, le taximètre l'a reconnu. Parce que ça devait être probablement le taximètre qui les transporte habituellement. Alors ce jour-là, le père appelé au taxi. Et quand il est arrivé à destination, il a attendu le billet. Et puis le père demande que le taximètre lui remette l'argent. Et puis le taximètre lui dit, mais hier ou avant-hier, ton fils a pris le taxi. Il m'a fait don, il m'a donné gratuitement, il m'a fait don de l'argent. Et le père répond, lui, son père est riche. Mais moi, mon père n'était pas riche. Mon père était pauvre. Vous avez compris l'exemple? Alors si nous, moi je viens d'une famille très modeste, à la limite pauvre, le rêve que je pourrais commettre, c'est de vouloir offrir à mes enfants ce que je n'ai pas vu. Mais ce faisant, je ne suis pas en train de les aider. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants chrétiens deviennent des paresseux. Ils ne se battent plus. Papa va tout faire pour moi. Non, en ce qui concerne l'éducation des enfants, il ne faut même pas transiger pour l'éducation. Et pour cela, je salue ma femme parce qu'à ce niveau, elle ne s'amuse pas. Pour l'éducation des enfants, il ne faut pas transiger. Il ne faut pas trop les gâter. Je pense même qu'il faut aller plus loin. L'éducation des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur lancer un défi. Beaucoup d'entre nous aussi avons des enfants. Il faut leur lancer un défi. Quel est le défi à lancer à un enfant? Même à 8 ans déjà, il peut comprendre. À 10 ans, 12 ans. Lancez-le un défi. Qu'est-ce qu'il faut dire à son enfant? Dis-lui ceci. Moi, mon père était, moi, avec son au village, dans les plantations. Tu expliques ta condition pour qu'il sache d'où tu viens et comment tu as lutté pour arriver là où tu es. Et tu lui dis maintenant, toi, voici, tu avais 15 ans, ou tu as 15 ans maintenant, ou tu as 10 ans. Moi, quand j'avais 10 ans, j'étais peut-être au CP1. Toi, tu as 10 ans, tu es au CM1, au CM2. Donc, il y a une différence entre moi et toi. Mais je vais savoir d'ici 5 ans, 6 ans, est-ce que tu es capable d'atteindre mon niveau? Est-ce que mon français est clair? Vous lancez un défi à l'enfant. Vous lui dites qu'il a des avantages que vous n'avez pas. Il y a un ordinateur à la maison. Quand il y a un ordinateur à la maison, là, que toi-même, ordinateur, tu ne rêvais même pas à ça. C'est quand tu as travaillé que tu as eu ordinateur pour la première fois. Lui, il a un ordinateur à la maison. Internet, mais il a ça. Donc, tu dis à l'enfant que je te lance un défi. Quand je pense aux conditions dans lesquelles j'ai évolué et là où je suis arrivé, je veux savoir si toi, tu es capable d'arriver au niveau où je suis arrivé et si tu es capable de me dépasser. Quand un défi est lancé à l'enfant, il va être conscient. Donc ainsi, l'enfant lui-même se prépare à avancer. La même manière que vous faites le défi pour les études, faites le défi également pour la foi, pour sa foi. Vous dites, moi, j'ai accepté le Seigneur. Bon, ça dépend de l'âge à quel vous acceptez le Seigneur. Et quand tu as accepté le Seigneur, tu es resté dans la foi. Tu dis simplement à l'enfant que quand tu ne connaissais pas Dieu, tu faisais ceci, tu faisais cela. Et vous voyez, tu n'es pas en train de le forcer, tu es en train de lui parler. L'enfant comprend. Quand tu ne connaissais pas Dieu, voilà ce que tu faisais. Mais ça t'a rendu malheureux. Tu as perdu du temps. Tu t'es combattu en esprit. Mais quand tu as connu Dieu, voici ce que ça a changé. Et que toi, je ne voudrais pas que tu passes par la même situation parce que voilà ce que j'ai vécu. Et c'est pourquoi je dis, donne ta vie à Dieu. Vous n'êtes plus en train de l'obliger. Vous êtes en train de lui parler. Mais ils sont grands, les enfants, même à 10 ans déjà, ils comprennent, ils sont grands. Vas-y, tiens. Il est bien de savoir écouter papa. Voilà une histoire qui paraît importante quand même vous parlez aux enfants et qui, même si ils ont l'impression de ne pas vous écouter, vous écoutent toujours. Une histoire qu'on m'a racontée. L'histoire de l'enfant d'un pasteur, encore un grand pasteur ici en Côte d'Ivoire, qui est président d'une grande communauté ici. Son fils, enfin, il étudie à l'extérieur, dans un pays où il y a le pétrole. Et son fils travaillait dans une compagnie. Et il semblerait dans le témoignage qu'on m'a donné, je me conditionnais parce que bon, c'est un témoignage que quelqu'un m'a rendu. Mais une dame qui est proche de lui, donc je pense que ça donne un témoignage crédible que je donne. L'enfant a eu des problèmes parce que vous savez, dans le pétrole, surtout au niveau de la terre, le pétrole comprend la terre, il y a la boue, le goudron, c'est sale, c'est gluant. Et il travaille dans un domaine pareil, c'est vraiment le fourrage à un haut niveau. Et puis, manque de peau pour lui, bien entendu, c'était le soir, il fallait rentrer, prendre les cas pour rentrer. Et lui, bon, vous voyez, quand on partait souvent au champ, hein, en groupe, vous savez, si quelqu'un n'est pas là, vous ne savez pas toujours. C'est souvent beaucoup plus tard que vous savez, mais l'autre n'est pas là, il est parti où on le cherche. Donc, en groupe, des fois, vous n'avez pas l'occasion de remarquer que tel est absent. Tu peux dire, bon, il est devant. Il est peut-être allé avec l'autre groupe. Donc, ça s'est passé ainsi dans ce cas-là. Oh, la femme était en train de glisser complètement vers les puits. Glisser complètement. Il était en train de se noyer pratiquement. Et dans le témoignage qui a été rendu par la sœur, le témoignage qui vient du père, l'enfant dit ceci. Il a dit, oh Dieu, mon père t'a servi toute sa vie. Il dit, mon père t'a servi toute sa vie. Que le Dieu que mon père sait a servi, oh Dieu, sauve-moi. C'est la prière que l'enfant a fait. Il dit que mon père t'a servi toute sa vie. Mon père t'a cherché. Oh Dieu, ne me laisse pas mourir ici. Sauve-moi. Et dans le témoignage, la sœur racontait, on ne sait pas par quel moyen, mais l'enfant a réussi à avoir un courage exceptionnel. Au lieu de glisser, aller quasiment vers le pétrole, vers la boussole, tout ce qui est forage, il a commencé à remonter. Et quand les autres ont appris au témoignage, ils étaient surpris parce que beaucoup sont morts comme ça. C'était inimaginable qu'un enfant sorte de là. Qu'est-ce qu'il a sauvé, vous voyez? Le Dieu de l'Alliance qu'il a invoqué s'est souvenu de lui. C'est pourquoi il faut que maintenant, on doit apprendre à nos enfants à prier avant de manger. Mais je dis à ne pas les forcer. Il ne faut pas surtout les réveiller le matin. Quand il est 5 heures du matin, comme toi tu t'es réveillé pour prier, ne le réveille pas. Laisse les enfants lui-même se réveiller. Et promettez des choses. Moi quand j'étais au lycée Gaston Majorville, on priait le matin. J'étais dans la foi. Mais on priait souvent avec 4-5 heures du matin. Moi, ça me fatiguait. Moi, j'étais dans la foi. Je me levais, je baille. Oh Seigneur Jésus, bénis ce repas que tu me donnes un matin. Il n'y a pas de repas, mais je bénis le repas. Oh, tu bénis le repas. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Ouais, je dis n'importe quoi dans la prière. Parce que je suis fatigué, j'ai sommeil. Oh, la soeur, elle faisait de tout son cœur. Son fils, même chose. Son fils était énervé. Lève le matin, 5 heures du matin, on va prier. L'enfant était énervé. Il venait prier quand même. Mais il n'était pas content. Il n'était pas content qu'on le réveille. Chers parents, chers parents, n'obligez jamais nos enfants à faire ça. On doit leur suggérer des choses. On donne la parole de Dieu. On leur rappelle. On crée un événement en fait. Avec eux, il faut créer des événements.
Parce qu'autrement dit, si on est trop sévère, trop strict, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire des choses à cause de nous. Mais demain, quand on ne sera pas là, quand ils seront grands, ils vont aller en cité ou quelque part d'autre, ils vont prendre le studio. Ils vont vouloir profiter de la vie. Ils vont dire, oh, oh youpi, ce sont les vacances. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Alors je profite. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est vraiment à ramasser ce que je voulais dire pour les enfants. Il faut prier pour eux. Les amener à prier ensemble avec vous. Donner les livres intéressants. Des cantiques intéressants. Mais ne les obligez jamais. Et puis, bien entendu, j'ai fait le constat. Moi, je me suis dit dans la foi. Je me suis converti quand j'étais à l'école primaire. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes qui ont été converties, des enfants de pasteurs ou des anciens, ou des chrétiens anciens, qui ont été convertis dans les camps. Ou n'ont pas été convertis avec leur père ou avec leur mère. Ils ont été convertis avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Mais parce que l'enfant, il a quoi? Il est habitué à la prédication de papa à la maison. Il sait comment il prie, donc ça ne lui dit rien. C'est pourquoi, si votre enfant a un problème, moi j'encourage les parents à envoyer les enfants dans les camps. Dans les camps bibliques. Mais pas dire les camps de plusieurs niveaux. Il y a les camps de 7 ans à 10 ans, on les met ensemble, donc même âge, de 12 ans à 13 ans, enfin, on les met ensemble. Et quand ils vont retrouver, ils vont se retrouver entre des gens du même âge, ils sont à 200, 300. Hein, venant de familles différentes, ouais, la vie ensemble va les amener à savoir que on peut être jeune et puis aimer Dieu, on peut être jeune et craindre Dieu. Donc vous voyez que dans ces conditions là, ils ont envie de répartir parce qu'ils se rendent compte que c'est intéressant. Et c'est pourquoi par exemple de l'école dimanche, c'est une bonne chose de le faire. On a constaté que les enfants venaient à l'école dimanche parce que après le culte, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des gâteaux, ils prennent du coca et du Fanta. Donc tous les dimanches, ils sont chauds pour partir parce que tous les dimanches ils vont faire quoi? Ils vont manger. C'est pas parce qu'ils mangent pas à la maison. Ils mangent à la maison. Mais comme ils se trouvent à 10, à 15, il y a une ambiance qui est créée. Ça chante un peu ensemble. Et puis, il n'y a pas de maîtresse qui les frappe. Il n'y a pas de leçons à retenir. Donc, ça crée une ambiance. C'est la manière qui peut nous aider à gagner les enfants à Dieu en créant pour eux l'ambiance et les conditions. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, il y a eu des cas où l'enfant qu'on a n'est pas l'enfant de la femme avec qui on vit. On peut avoir un enfant dans ses relations passées, dans un ménage passé ou ailleurs. Et malheureusement, dans ce genre de situation, il y a souvent des bagarres. Je crois de ma part que l'erreur n'est pas commettre. Quand vous avez déjà eu un enfant dans un mariage passé ou bien dans une relation passée, soit un enfant de ce qu'on appelle l'enfance, au collège ou au lycée, ou quand on est un bébé jeune, quand on se met avec quelqu'un d'autre. Souvent, l'erreur que les parents commettent dans ce cas-là, quand ce n'est pas leur enfant, ils ont tendance à privilégier l'enfant qui est sorti d'eux. Oh, vous savez une chose, les enfants se livrent toujours des secrets. Si tu as offert un cadeau spécial à ton enfant, à l'enfant qui est sorti de toi, donc, et puis bon, tu as laissé l'enfant de ton mari, par exemple, ou de ta femme. Ton enfant va dire à son frère que mon père m'a donné de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? L'enfant va livrer le secret. Vous voyez, il va livrer le secret. Et comme il va livrer le secret, les autres vont se rendre compte que tu fais un traitement différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont se rendre compte que tu fais un traitement différent. Parce que la manière dont tu t'occupes de lui spécialement, c'est trop particulier. Même si, avec le mari ou la femme avec qui tu vis, vous avez des enfants ensemble. Tu peux te dire, comme ton père n'est pas là, ça arrive surtout aux femmes. Madame, je m'excuse, pardonnez. Moi, je vous dis la vérité. Ça arrive souvent aux femmes. Qu'est-ce qu'ils se disent? Elles disent que le père de l'enfant que j'ai n'est pas là. Il est quelque part. Et elles ont tendance à accorder plus d'attention à cet enfant dont le père n'est pas là que à ses propres enfants qu'elle a avec le mari avec qui elle vit. Ça, c'est une erreur grave. Parce que vous voyez que les autres enfants qui sont tes enfants, ils vont le remarquer. Oui, mais ils vont pas remarquer ça. Si. Ils vont dire que tu fais un traitement partial. Pourquoi c'est à Roger à qui tu accordes plus d'attention? Vous voyez, quand les enfants vont commencer à faire quoi? À se détester. Dès lors qu'on privilégie un par rapport aux autres, C'est nous-mêmes qui mettons l'épée dans la maison. Nous-mêmes. La même manière, si l'enfant de monsieur n'est pas ton enfant, parce que ça arrive, je dis des choses que j'ai vécues, que je vois. Souvent, et ça arrive souvent aux femmes. Mais excusez-moi, madame, mais après, je vais traiter avec les hommes aussi. Quand ce n'est pas son enfant, et que c'est l'enfant d'autres femmes que monsieur a eu dans son passé, c'est toujours lui qu'on envoie à la maison, toujours lui. Toujours. Va acheter bois d'allumettes. Oh! Samuel, va acheter bon photo. Quand il y a une chaise à envoyer, Samuel envoie la chaise. Tes propres enfants sont pédards. Et c'est l'enfant de monsieur ou bien de l'autre femme qui est toujours, qui sert de garçon de course. L'enfant, il va enregistrer cela comme n'étant pas intégré dans la famille. Il va se dire, comme maman n'est pas là, c'est pourquoi on m'envoie toujours. Demain, s'il réussit dans la vie, il va voir ses enfants, enfin, ses frères, comme étant, enfin, comme n'étant pas ses vrais frères. Parce que justement, ils n'ont pas été traités de la même manière. Je crois que quand la maman n'est pas là, la maman de l'enfant n'est pas là, il ne faut pas en faire le serviteur de la maison. Je le dis parce que je l'ai vécu, je vois ça souvent se faire. Mesdames, vous qui vous suivez à la télé, à la radio, qui vous suivez sur Internet, ne transformez pas les enfants de l'autre femme en serviteurs et en boy. C'est eux qui suivent les chaises, qui font la table. Vos enfants ne font jamais rien. Ils sont toujours à l'aise. Oui, c'est ce qui crée des conflits, qui crée des problèmes. Donc, vous voyez que c'est les choses auxquelles on doit faire attention. Autrement dit, nous-mêmes, on se crée des problèmes. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, non? Il faut faire vraiment attention à ce genre de situation-là. Je crois que ce qu'il faut faire, si vous avez vu des enfants différents, le monsieur a deux enfants différents, trois enfants, plus la femme va les accepter comme ses propres enfants. Je pense même qu'à ce niveau-là, on doit même être un peu plus inégal. C'est-à-dire que la mère doit prendre ses enfants, même comme la maman des enfants n'est plus là, ou ils ne sont plus là. Je pense que la mère, qui n'est pas donc la mère biologique de l'enfant ou des enfants, doit les traiter un peu plus que ses enfants. Pourquoi? Mais parce que eux n'ont plus l'enfant, leur mec est là. Donc si eux se rendent compte que la maman les traite autant, même plus que leurs propres enfants, comme leur propre maman, ils vont se sentir à l'aise. Ils vont se sentir aimés. Ils n'auront plus envie de sortir d'être dehors. Parce qu'ils vont se sentir pleinement intégrés. N'oubliez pas que quand un enfant, bien sûr, sait que son père est là à la maison et que sa mère n'est pas là, il voit la femme de son père comme qui? Comme qui? Non, pas toujours. Il voit comme l'ennemi. Il peut ne pas l'aimer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que... Pourquoi est-ce que l'enfant peut voir la femme de son père comme étant un genre de rival à sa mère? Si. Bon, si la mère décide d'accord, mais si elle vit, il peut voir... Bon, si c'est un garçon, une fille, surtout quand c'est les filles, elles sont plus dangereuses, elle peut voir la femme de son père comme étant un genre rival de sa mère. Et puis, dire à son père, mais pourquoi tu laisses maman? Quand la femme dit ça à son papa, ça veut dire qu'il y a un problème avec la maman qui est à la maison. C'est disant, pourquoi tu laisses maman? Ça veut dire que c'est une fille ou un garçon, c'est qu'il ne se sent pas à l'aise. Je crois que papa, que les femmes, dans ce cas-là, doivent savoir que l'enfant a un déficit émotionnel. Sa mère n'est pas là. L'enfant a un déficit émotionnel. Il a besoin de se rassurer que la femme de son père peut l'aimer autant et même plus que sa mère. Et si la femme réussit ce coup, c'est fini. Ça veut dire que la tension qui peut se créer va cesser parce qu'il va se rendre compte que la même manière tu donnes tes enfants, tu leur fais des câlins, des bisous. Avant d'aller se coucher, tu dis, oh mon bisou, tu lui fais les mêmes câlins, tu offres la même chose un peu plus que lui, la femme sera à l'aise. Et si c'est bien fait, il va même aller t'appeler jusqu'à, elle va dire, maman. Mais si ce n'est pas bien fait, demain il peut être un voyou. Et c'est lui qui est capable, et je l'ai cas comme ça, il est dans la maison, il n'est pas un étranger. Il est capable de faire des coups pour qu'on vienne voler à la maison. Il connaît la maison, c'est chez lui, c'est chez son papa, il va dire, c'est chez mon papa. Donc vous voyez que l'éducation devient importante quand c'est eu des situations qui se sont passées. C'est pourquoi, à ce niveau-là, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts et faire en sorte que l'enfant se sente pleinement intégré, qu'il se sente à l'aise, qu'il dit c'est ma maman.
Ça peut arriver aussi. Si c'est le père, si c'est la maman qui avait déjà un enfant ou des enfants, et puis elle se met avec quelqu'un, il faut que le père fasse cet effort-là. Je pense même que si l'enfant vit avec vous, parce que généralement, les femmes le savent, c'est nous les hommes qui faisons tout à la maison. C'est nous qui payons l'eau, le courant, on paie bois d'allumettes, on paie la fourniture. Parce que les enfants, nous les hommes, on souffre énormément. Même si les femmes, même si on n'a pas réservé pour nous des fêtes de papa, il faut que les femmes sachent que nous, on souffre beaucoup. C'est vrai, les hommes souffrent plus que les femmes. Fait toutes les chats de la maison, c'est chez nous. Alors, j'ai fait une parenthèse pour dire que comme tout le monde sait que c'est papa qui paie l'école, la scolarité, c'est là. Je crois que si le père a un peu plus de moyens, payez l'école de l'enfant ou des enfants de votre femme. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi les hommes? C'est important. Pourquoi? Même si son père vit, traitez-le comme votre propre enfant. L'enfant vient, tu l'appelles, il est à l'école. Ça coûte un peu cher. Mais tu le fais pourquoi? Tu le fais pour gagner la paix. Ouais, tu as fait des dépenses, c'est vrai. Mais tu le fais pour gagner la paix à la maison. Pour ne pas que dans 10 ans, les enfants se mettent en conflit. En conflit. Parce que si l'enfant est pris en charge par son père, il va retenir que j'étais chez ma mère, mais son mari ne faisait rien pour moi. Il va retenir ça. Donc demain, quand vous ne serez plus là, les conflits peuvent naître. C'est pourquoi, si vous avez un peu plus de moyens, même si son père veut perdre sa scolarité, prenez devant les choses. Faites-le. Si vous le faites, vous le gagnez à vous-même. Et si vous le gagnez à vous, vous le gagnez à vos propres enfants, qui sont aussi ses frères ou ses sœurs. Donc vous créez ici la paix, vous créez un dans le foyer qui fait en sorte que dans 20 ans, dans 30 ans, même quand vous ne serez plus là, vos enfants vont se sentir intégrés. Ils vont savoir que mon père biologique ne m'a pas aimé autant que mon père, le mari de ma mère. Il va avoir ça dans son cœur. Il y a des gens que j'ai vu souffrir parce que le père, parce que le vrai père, enfin, parce que le père biologique était mort, et je me suis interrogé, il m'a dit, vraiment, c'était le mari de ma mère. Mais cet homme-là, il m'a aimé exactement comme ses enfants. Ouais, c'est resté dans la tête de l'enfant. Un gars qui s'est produit dans l'église. C'était pas son vrai père qui était mort, c'est après que je l'ai su. Mais il pleurait, il était aussi touché que si elle était venue, il était descendu de ce monsieur. Dit, ce monsieur nous a traité la même manière qu'il a traité ses propres enfants. L'école, tout. Donc vraiment, mon cœur me fait mal. Mon vrai père est mort il y a longtemps. Mais ici, aujourd'hui, je considère que celui qui est mort, c'était vraiment mon père. Pourquoi est-ce que le frère avait le cœur si touché? Mais parce que le monsieur, dont le mari de sa mère, s'est vraiment occupé, sans aucune distinction. La même manière qu'il a fait pour les enfants, il a fait ça pour eux tous. Donc le cœur était touché et s'est senti intégré. Dans cette famille, il n'y aura jamais de problème. Jamais de problème. Donc vous voyez que, en traitant cette chambre, la dixième chambre, je suis en train de traiter un problème délicat. Fais en sorte que l'amour dans le foyer, la même manière qu'on a aimé la femme qu'on vit avec elle, on doit aimer ainsi l'enfant qu'elle a eu dans le passé. La même manière on a aimé le monsieur qu'on vit avec lui, on doit aimer l'enfant qu'il a eu dans le passé. Ah, est-ce qu'on dit pas, on peut dire amen. Et ainsi, créer l'union et créer l'unité dans le foyer. Et pour aller vers la fin, parce que je vais achever aujourd'hui. Après cette dixième chambre, on aborde rapidement la onzième. La onzième chambre qui est la chambre de la gestion des ressources et des moyens financiers, ensemble des projets. On a déjà vu ça un tout petit peu quand j'abordais la chambre de quitter père et mère. Mais ce matin, je vais aborder en 3-4 minutes rapidement, et puis on finit le séminaire sur le mariage, sur les 12 chambres bonheur conjugales. Quant à la gestion de l'argent et des projets, en fait, quand on est marié légalement, il y a toujours deux régimes. Et le régime de la séparation des biens et le régime de la communauté des biens. Voilà, maintenant c'est le juriste qui parle, hein, ce n'est plus le pasteur. Il n'y a aucun problème qu'on fasse régime de séparation des biens. Je dis, mais il n'y a aucun problème. Ça dépend de qui vous êtes. Vous savez, le droit institue le régime de la séparation des biens pour des raisons précises hein, que je vais citer maintenant. Certaines personnes ont reçu des héritages qui appartiennent à la famille. Et d'autres personnes souvent ont géré des sociétés et ont des affaires. À ces personnes-là qui ont des affaires importantes, qui traitent en termes de beaucoup de millions, tout cela, il est souvent conseillé de faire
un régime de séparation des biens. Pourquoi? J'ai expliqué ça pourquoi. Mais parce que s'il y a une faillite dans l'affaire, si on poursuit monsieur parce qu'il n'a pas payé ses dettes, on ne touchera pas à l'argent de la dame. Mais quand c'est la communauté des biens, dès qu'il y a une faillite, qu'on poursuit quelqu'un, on te poursuit tes biens à toi, mais les biens que vous avez acquis ensemble. Et si vous avez affaire à quelqu'un, par exemple une femme ou un homme, qui est dépensier, qui dépense ou qui doit, qui est endetté jusqu'au cou, un régime de séparation n'est pas mauvais, en ce sens que vous sécurisez les biens que vous avez acquis, mais pour les enfants. Ça, c'est ce que je veux dire rapidement. Mais, bien entendu, le chrétien sait parfaitement que quand vous faites le régime de séparation des biens, vous pouvez après, devant le juge, revenir au régime de la communauté des biens. Mais ce régime de séparation des biens est instauré juste pour des personnes qui sont engagées dans trop d'affaires. Dans trop d'affaires. Qui ont trop de relations. Et qui peuvent perdre l'argent facilement. Et si ils ont perdu de l'argent et qu'on les poursuit, on risque de poursuivre même l'argent de la famille. Et mettre ainsi la famille en difficulté. C'est pourquoi le régime de séparation des biens est créé. Ce n'est pas pour diviser l'argent des personnes. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Mais ceci étant, je trouve normal que dans un foyer chrétien, la femme et l'homme soient parfaitement transparents en matière de gestion financière. L'homme doit avoir une idée claire du salaire de sa femme. Il n'y a pas besoin de ça, je suis au courant. Mais on ne peut pas dire qu'on aime une personne sans qu'on ne sache tout. Je crois que l'homme doit savoir connaître le salaire de sa femme. Je dis quelque chose. Généralement, m'excuse les dames, mais bon, c'est le conseil que j'ai fait. Vous laissez trop de charges aux hommes. Trop de charges aux hommes. Trop de charges. Et les femmes disent toujours l'argent. L'argent, toujours aux hommes, l'argent, l'argent, l'argent. Vous voyez, vous les femmes, quand vous dites ça, ça va passer à Internet. Ça fatigue les hommes, ça les fatigue. On a l'impression que votre argent ne sert qu'à vous et à vos parents. Les hommes, c'est ça, non? On a l'impression que l'argent de nos femmes ne sert qu'à elles et à leurs parents. Et il faut que les femmes, vraiment, vous faites l'effort pour savoir, il faut que les hommes sachent ce que vous gagnez aussi. Généralement, les femmes sont très regardantes sur le salaire de leur mari. Et demande-toi à ton mari, mais l'argent, tu as fait quoi avec ça? C'est rare qu'on voit un homme dire à sa femme, tu as fait quoi avec ton argent? C'est toujours la femme qui dit, mais toi, tu as l'argent, tu as fait quoi avec ça? Toujours. Donc, pour les femmes, les hommes ont toujours l'argent avec eux. Elles, par contre, elles sont toujours en situation de demande. Achète-moi un bijou. Achète-moi un portable. Achète-moi ceci. Envoie-moi en vacances. Vous n'avez pas remarqué, les femmes demandent toujours ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, les hommes, vous n'avez pas remarqué ça? Si. Les femmes changent ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les hommes ont tendance à vous mépriser. Parce que vous vous présentez comme des éternels demandeurs, toujours demandés. Ça fait des mains. Chérie, tu m'offres quoi? La femme est toujours en train de demander au mari ce qu'il va lui offrir. Rarement, l'homme s'attend à ce que la femme lui offre quelque chose. Rarement. Moi, je pense que dans le foyer, l'homme et la femme doivent contribuer aux charges en fonction des ressources de quelqu'un. Je sais que les hommes ont un problème. Les hommes sont des gros complexés. Les hommes sont plus complexés que les femmes. Vous voyez, c'est rare de trouver un homme qui marie une femme qui est plus instruite que lui, par exemple. C'est rare. C'est rare de trouver un homme qui prend une femme qui est plus riche. Enfin, généralement, ils sont complexés. Donc, vous voyez que nous, les hommes, des fois, on a des problèmes. Des fois, ça chauffe sur nous. Mais comme on est décomplexé, on est obligé de serrer la ceinture pour vous faire plaisir. Vous devez savoir que vous devez des temps dont nous dépanner. Il faut dire amen, les hommes. Amen. Aujourd'hui, c'est votre tour. Bon, les hommes, ils sont là sans leur femme. Sinon, si la femme avait compris ça, peut-être que ça allait changer à la maison. Comment? Oui, le chef, mais quand même, aie pitié de nous un peu. Contribuez un jour un peu aussi. C'est ça, j'en parle parce que c'est important d'arriver à ce niveau d'équilibre-là. Je le dis parce que c'est ce qui pousse les hommes à ne pas prendre les femmes au sérieux. Je pense qu'en ce qui concerne les charges du foyer, une femme ne doit pas s'attendre à ce que ce soit l'homme qui fasse tout. Il faut dire amen avec moi. Si elle peut qu'elle le fasse. Pourquoi? Mais parce que l'homme est un gros complexé. Il y a des hommes qui refusent d'aller dans les maisons. C'est-à-dire que
La dame a les moyens. Elle peut s'acheter une maison. L'homme aura du mal à aller dans la maison que sa femme a achetée. C'est rare, non? C'est très rare. Les personnes, nous, on est décomplexés. On n'aime pas que les femmes prennent devant des choses. Or, vous n'êtes pas des femmes ordinaires, vous êtes des femmes de Dieu, vous êtes des femmes distinguées. Donc, vous devez mettre votre mari à l'aise pour dire, chérie, je sais que c'est dur sur toi. Mais tu es mon chéri. Je vais essayer 1-2 millions. Prends ça. Prends ça. L'homme aura le cœur touché. Dit, oh, ma femme m'a aimé parce qu'elle m'a offert 2 millions. Faites ça, les femmes. Je m'adresse à vous parce que vous... Comment? Elles n'en ont pas. Elles voient, comment elles n'en ont pas? Ils ont toujours quelque chose. Il y a toujours l'un qui est attaché dans le caillou quelque part. Il y a toujours un jeune, 20 000 francs qui est attaché quelque part. Non! Vous pouvez en avoir. J'en parle parce que les hommes sont des grands complexés. Et quand un homme n'a pas les moyens pour s'occuper de sa femme, il est malheureux. Il est malheureux. Si vous êtes une femme, vous avez un peu plus d'argent que votre mari, mettez-le à l'aise. Dites, mon chéri, je sais que c'est dur. Je sais que tu es l'homme. Tu es le seul du foyer. C'est toi qui dois tout faire normalement. C'est toi qui es le chef. Mais je sais que c'est dur sur toi. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je vais t'aider. Femme, si vous faites ça, son cœur sera brisé. Il va même pleurer. Parce que vous avez touché son secret. C'est pourquoi je crois que cet aspect doit être réglé. Les projets doivent être faits ensemble. Je pense que c'est une erreur, par exemple, que tous les biens portent le nom de la femme, portent le nom du monsieur. C'est pas normal. Je pense qu'une femme peut avoir ses biens à elle. C'est normal. Mais il faut que ça soit dans une situation de transparence, d'accord mutuel. Je ne dis pas que dans le foyer, on ne peut pas faire. Une femme qui a l'argent peut vouloir réaliser quelque chose de personnel. Mais quand c'est comme ça, parce que j'ai dans des cas aussi où l'homme aussi se trompe, parce que j'ai des cas où, par exemple, le monsieur a l'argent, son premier réflexe c'est de faire quoi? Construire une maison pour son père et sa mère au village. La femme n'est pas d'accord avec ça et ça fait des problèmes. Quand il s'agit de ce genre de projet là, les hommes, on ne doit pas passer outre la vie de nos femmes. Si on doit construire une maison au village pour nos parents, il faut que la femme soit associée. S'il n'est pas d'accord, ne le faites pas. Il faut dire amen avec moi. S'il n'est pas d'accord, ne le faites pas. Il faut chercher à la convaincre. Parce que les femmes peuvent détruire quelqu'un facilement. Donc il faut l'amener à comprendre que je vais le faire parce que dans mon village, on me connaît. Je suis un cadre. Vous voyez, encore, tu vois ici, généralement, quand tu es un cadre, vraiment, on ne peut pas tolérer que tu n'aies pas une maison dans ton village. Ce n'est pas tolérable. Tu n'es même pas trop au chapitre, tu ne peux même pas parler. Donc convainc la femme pour dire, c'est vrai, bon, on va essayer de jouer un peu. Si tu peux m'aider, on va finir la maison du papa et tout cela. Et donc, c'est les choses qui doivent se faire d'un commun accord. Le choix du lieu, du quartier habité, doit se faire d'un commun accord. Et je crois que pour ouvrir donc le projet, mettez les deux noms ensemble. La maison appartient à M. Gadji Abraham et à Sian Kouti Micheline. Je crois que l'idée de communauté arrive ici dans les projets. Même si c'est le monsieur qui a contribué un peu plus, ou bien c'est la femme qui a contribué un peu plus, je pense que pour les projets, on doit avoir les deux noms ensemble. Pourquoi? Mais parce que quand vos deux noms sont ensemble, vous n'aurez jamais envie de vous séparer. Puisque les projets que vous avez sont les projets communs. Vous déclarez le propriétaire, vous déclarez copropriété. De qui? De Gadji Abraham et de Siam Micheline. Copropriété. Même si c'est le mari qui a contribué à 95% ou à 90%. Même si c'est la femme, vous faites ça ensemble parce que ça constitue un lien, un gage de votre d'une vie stable. Et ça évite des idées de séparation future. Parce que là, c'est difficile à séparer là. Et donc, c'est les choses qu'on peut faire. Vous savez, la séparation arrive quand vous n'avez rien en commun. Mais attention, tout à l'heure, j'ai parlé de la séparation des biens. C'était pour un cas précis. Hein. Je l'ai dit parce que le droit le permet. Et c'est pour surtout ceux qui sont des gros dépensiers. Des dépenses beaucoup, qui ont les grosses affaires, qui gèrent beaucoup d'argent, des centaines de millions, qui sont dans des affaires, qui peuvent tout perdre. À ceux-là, il est conseillé de ne pas. C'est tout. Mais sinon, de manière générale, il est mieux de faire un régime en communauté de biens et de faire en sorte que la femme accepte que on met son nom comme copropriétaire du terrain qu'elle a acheté. Or, il arrive des fois, on va acheter un terrain et on met le nom du mari seulement. On met le nom du mari, dont le terrain appartient au mari. La femme ne sera pas concernée. Elle ne pourra pas contribuer. Mais si on met acheteur, on met co-acheteur, deux acheteurs, le nom de madame, le nom de monsieur, c'est bien. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas éternel. Si quelque chose arrive et que le mari est enlevé, les parents, nous parlons au village, ils ne réfléchissent pas. Hein, ils vont dire, c'était la maison de notre frère. Mais si vous avez mis copropriété de Gadji et de Michelin, il ne prend pas à la maison à votre femme, encore moins à vos enfants, parce que ceux qui peuvent bien s'occuper de vos enfants, ce ne sont pas nos frères. Hein. Non, c'est notre femme, notre mari. Ce n'est pas nos frères. Nos frères ont leurs enfants. Donc, s'ils prennent nos biens, ils vont s'occuper de leurs enfants, ils ne vont jamais s'occuper de nos enfants. C'est pourquoi il est mieux que la femme soit associée à tout, à l'achat du terrain, à l'achat de la maison, à l'achat de tel projet, en la mettant copropriétaire. On met nos biens en sécurité. Et si même on peut déclarer ça plus tard, chez le notaire, c'est une bonne chose. Pourquoi? Mais parce que tes enfants vont rester avec elle. Le jour on ne sera plus là, ou bien madame sera plus là, ou monsieur ne sera plus là, les enfants qu'on a en commun vont rester et ils seront les gagnants. Que Dieu nous bénisse vraiment. Et la deuxième chambre, c'est la chambre, n'est-ce pas, en deux minutes, c'est la chambre de la communion avec Dieu. Dans un foyer chrétien, Dieu a sa place. On doit apprendre à prier ensemble, à intercéder ensemble. Les sujets les plus importants du foyer doivent se faire ensemble. La Bible déclare que si deux s'accordent sur la terre pour demander une seule chose, elle sera accordée. Il est bien que monsieur et madame apprennent à prier ensemble. À prier ensemble, surtout pour les sujets délicats. Pas toujours, des fois, bon, tu as envie de prier seul parce que tu as un sujet particulier, mais des sujets concernant la maison, les enfants, les projets, il faut les faire ensemble. Comme c'est écrit dans Amos, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mis d'accord? Or, dans la prière à deux, l'homme et la femme, ça produit de l'effet puissant, un grand effet. Donc, c'est bien dans les sujets de prière, dans les prières importantes comme ça, que monsieur soit appelé, madame soit appelée, vous priez ensemble. Et même les enfants, si possible. Les appeler pour dire, ah, les enfants, il y a un problème à la maison. Surtout quand il y a des difficultés. Les enfants s'en foutent des difficultés des parents. Pour eux, le papa a toujours l'argent, moi, a toujours l'argent. Pour la meilleure façon de les convaincre, de les toucher, c'est de l'appeler. Pour dire, papou, on va prier. Hein. Tu vas prier papa, tu vas prier Dieu pour que Dieu donne l'argent à qui? À ton papa. Parce que ton papa a des problèmes. Quand l'enfant va savoir qu'il prie pour que son père ait l'argent, vous voyez que son esprit ne sera plus trop poussé sur son passé. Il va se rendre compte que son père l'associe à des prières liées à la maison. Ou tu as dit à l'enfant, par exemple, on veut construire une maison, mais c'est difficile pour nous. C'est trop cher. Prions ensemble. Donc, quand l'enfant va prier pour son père, il ne va pas avoir les mêmes exigences que par le passé. Il va dire, ah, c'est vraiment pas construire une maison. C'est pourquoi c'est difficile. Il ne peut pas acheter ceci parce que mon papa fait construire une maison avec ma maman. Donc, à cause de ce qu'ils font une maison, je ne peux pas demander comment acheter ceci, acheter cela. Mais s'ils ne sont pas associés à la prière, donc Dieu dans la maison, ils vont demander des choses. Si vous les refusez, ils vont dire vous les aimez pas. Donc, pour les prières importantes, il faut que père et mère soient associés. Et même les enfants, s'ils sont associés dans la prière, qui sont au courant de vos difficultés, s'ils sont associés à vos difficultés, ils sont au courant de ça, ils vont pas se fâcher. Mais s'ils apprennent ça eux-mêmes, comme ça, ouvertement, ils vont être en colère. Donc, la place de Dieu est importante dans la prière, dans la méditation ensemble et dans la communion qu'on a dans le foyer. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.